1, 2, test, test, micro,
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 microscopie.
Les documents de microscopie. Édouard Zambeau.
On va pas se poser la question, qu'est-ce que je fais quand vous voyez quelqu'un de malade? Bah, vous le prenez dans votre voiture, vous lui demandez pas s'il y a des papiers.
Il y a une traque des migrants, c'était évident, et c'est surtout ça qui est grave. Mais il y a aussi le même comportement vis-à-vis des bénévoles, et notamment les bénévoles qui parlent, en fait.
Le délit de solidarité n'existe pas. C'est un mythe.
La garde à vue a duré 6 heures. On m'a mis dans un cachot. Véritablement, j'étais un délinquant. J'avais commis un délit.
Parole contre parole, donc. Hein. Bienvenue dans Microscopie. Vous l'avez entendu, le désaccord est clair. Le délit de solidarité, mythe ou réalité? C'est ainsi que l'on pourrait résumer le thème de cette émission. Peut-on aujourd'hui en France être inquiété, poursuivi, voire condamné pour avoir apporté une aide à un étranger en situation irrégulière? D'un côté, le ministre de l'Immigration et de l'Identité Nationale affirme régulièrement, la main sur le cœur, que bien sûr, le délit de solidarité n'existe pas. De l'autre, les bénévoles des associations racontent les mésaventures qu'ils ont subies en portant simplement assistance à des sans-papiers. Alors bien sûr, au regard du droit, hein, ce n'est pas la même chose d'être interpellé que d'être condamné, même si les quelques heures, voire plus, de garde à vue prennent souvent des allures de punition pour des bénévoles animés par le désir d'aider les plus démunis et qui se font traiter en délinquants. Microscopie pose aujourd'hui un éclairage sur cette question qui fait polémique depuis de nombreux mois maintenant. Un reportage à la rencontre des bénévoles et des militants associatifs de Calais à Paris, de Toulouse à Marseille. Une polémique qui s'est invitée dans le débat public au lendemain d'une intervention policière menée en février dernier dans la communauté Emmaüs de Pointe-Rouge à Marseille. Et c'est donc dans ce quartier de la ville phocéenne au sein de la communauté Emmaüs que débute ce reportage d'Annie Leclerc.
Microscopie.
Ah, bonjour, madame.
Bonjour.
Merci pour votre don.
Bah, vous savez, ça rend service à tout le monde. C'est un demi-don, on va dire.
C'est des affaires d'enfants, c'est ça?
Ce sont des affaires de mes enfants, oui, que j'ai triées.
Alors là, c'est le lieu névralgique à Emmaüs. C'est l'entrée principale, donc c'est le portail qui s'ouvre. Et les donateurs viennent eux-mêmes, en voiture, à pied. Ils nous donnent toute la journée des vêtements, des objets dont ils n'ont pas besoin, des livres. Et tout cela, c'est des dons. Donc je suis Kamel Fassatui, je suis responsable d'Emmaüs. Je suis à Marseille depuis 5 ans.
Donc qui vous accueillez ici en fait?
Ben, nous accueillons en fait ici toute personne qui n'a plus rien, qui vit dans la rue.
Et qu'est-ce que vous leur demandez en fait quand ils arrivent pour qu'ils puissent venir ici?
Nous on demande très peu de choses. On écoute surtout la souffrance de la personne qui a été maltraitée, qui a vécu la rue, qui a tout perdu. On s'assure simplement que la personne a vraiment besoin d'être hébergée en urgence. On est vraiment dans l'assistance à une personne qui est en danger, hein, qui dort. Hein, voilà.
Donc vous leur demandez pas leurs papiers en fait?
Mais certainement pas. Enfin, je veux dire, ça fait 11 ans que je travaille à Emmaüs, je n'ai jamais demandé des papiers à quelqu'un.
Donc on va rentrer dans la salle.
Les clients n'oublient pas qu'Emmaüs, c'est pas simplement un lieu de brocante, ça, c'est l'activité économique. Donc, dans cet espace-là, qui est devant nous, nous avons mis en place un certain nombre d'informations concernant le mouvement Emmaüs.
Donc, salle Abbé Pierre, je vois, le portrait de l'Abbé Pierre, fondateur des communautés d'Emmaüs.
Fondateur de tout le mouvement Emmaüs, hein, depuis 1949. Donc, c'est vrai que c'est important que les gens qui rentrent à Emmaüs sache que derrière les armoires, les canapés, etc., il y a quand même un combat contre la misère. Les groupes...
Donc Emmaüs, je lis le panneau, hein, Emmaüs combat la misère en France en pratiquant l'accueil inconditionnel du plus souffrant dans le monde en soutenant ceux qui luttent aux côtés des plus pauvres.
Voilà. Alors c'est vrai que ça, c'était un petit rappel par rapport à l'incident, dirons-nous, qui s'est produit dans notre sphère en février 2009.
Polémique à Marseille sur l'intervention des forces de l'ordre dans un centre Emmaüs. Le responsable de la communauté a été placé en garde à vue et longuement interrogé sur les compagnons portant un nom à consonance étrangère.
On m'appelle à la maison, on me dit Kamel, il y a un compagnon d'Emmaüs qui se prénomme Hamid, qui a été arrêté à Marseille et qui a été embarqué par la police. Et la police est arrivée à Emmaüs pour voir dans quelques conditions il était hébergé. Donc il était venu menotter ici. Il y avait une perquisition dans sa chambre. Voilà. Comme si Hamid était un délinquant. Donc ils l'ont arrêté et voilà, on m'a appelé en me disant, monsieur Kamel, donc on voudrait vous rencontrer. pour quelques questions, tout simplement. Donc je me présente à 11h le lendemain, et en fait, le policier hein, en civil me dit, monsieur, ben, je vous mets en garde à vue, immédiatement, enlevez votre ceinture, videz vos poches, vous avez enfreint la loi sur l'entrée des personnes étrangères en France. Donc vous risquez 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et le cauchemar a démarré comme ça. Alors des séries de questions sur Emmaüs. Qu'est-ce que c'est? Quel est votre chiffre d'affaires? Quels sont vos partenaires? Combien de personnes vous accueillez? Donc en fait, il était parti de Hamid. En disant en gros, bon Hamid, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que depuis quand vous l'accueillez? Comment il est? Etc. Et après, l'interrogatoire a vite dévié sur Emmaüs, sur l'association, sur ce qu'on y faisait. Enfin, un tas de questions qui étaient véritablement une enquête bien menée, quoi.
On vous reprochait d'avoir hébergé une personne sans papier ?
Alors, c'était ça, oui, tout à fait. Donc, on m'a reproché d'avoir accueilli quelqu'un et que je n'avais pas vérifié son identité ni la légalité de son séjour en France. Ce qui est quand même incroyable. Pourquoi incroyable ? Parce que l'abbé Pierre, il y a 60 ans... Quand il a accueilli quelqu'un qui était un certain Georges, c'est le premier compagnon d'Emmaüs, il n'a pas demandé ses papiers. Moi, je suis dans cette tradition, je veux dire, je ne suis pas un auxiliaire de police, enfin, ce n'est pas ma vocation. La garde à vue a duré 6 heures. J'ai eu droit à une prise d'empreinte. On m'a photographié de face et de profil avec mon nom. On m'a mis dans un cachot. Véritablement, j'étais un délinquant. J'avais commis un délit. Et puis après, il y a eu le tournant, j'allais dire, de la journée. Donc, l'après-midi, l'interrogatoire se poursuit. Et là, donc, il y avait deux policiers qui me disent « Bon, ben, monsieur, on va aller faire une perquisition dans votre association et prendre tous les dossiers que nous souhaitons prendre. » Et voilà que je me retrouve sur mon lieu de travail, en plein après-midi. La vente est ouverte, donc 14h, 14h30. Les clients qui me connaissent, les compagnons qui me connaissent, entourés de quatre policiers, et je n'avais pas le droit de communiquer. La perquisition commence, c'est-à-dire, donnez-nous les dossiers, sinon on va tout prendre. Voilà la demande. C'est comme ça qu'ils ont pris les dossiers donc des personnes dites à consonance étrangère hors espace Schengen.
Dans votre vie, ça vous est déjà arrivé d'être mis en garde à vue ou inquiété par la police?
Pas du tout. J'ai jamais grillé un feu rouge. J'ai jamais eu perte de points sur mon permis. J'ai un casier judiciaire vierge. Je veux dire, non, je connais pas du tout ça. Pas du tout.
Alors, Stéphane Maujean, je suis président du GISTI, groupe d'information et de soutien aux immigrés. C'est une association qui a été créée il y a maintenant une trentaine d'années par des élèves de l'ENA, par des avocats, par des travailleurs sociaux. L'histoire récente, c'est que un compagnon d'Emmaüs était un étranger en situation irrégulière. Et ça a amené à ce que le responsable de cette communauté soit inquiété. Et puis, on avait d'autres informations, telle assistante sociale dans une association de femmes battues qui était inquiétée parce qu'elle avait aidé une femme battue en situation irrégulière. Donc, mais là, l'affaire Emmaüs, ça a eu un effet. Et nous sommes tous réunis, vraiment, tout le monde associatif humanitaire. Et on se réunit en disant, mais c'est pas possible cet article. Tout le monde peut être inquiété, c'est un véritable problème. Le texte est très clair, c'est toute personne qui tentera ou aura aidé de façon directe ou indirecte une personne à entrer, séjourner ou circuler régulièrement sur le territoire français pourra être poursuivi. Voilà, c'est-à-dire que c'est un article qui est extrêmement large. C'est qu'elle permet la poursuite de quelqu'un pour une tentative d'aide indirecte. C'est-à-dire que vous commencez à mettre la main dans la poche pour sortir un euro pour donner à un collectif d'aide aux sans-papiers, vous pouvez être poursuivi. Donc on peut poursuivre tout le monde. Il y a quelques petites immunités qui existent pour les ascendants, descendants, conjoints, etc. Dans les annexes à la loi de finances, il est demandé à ce qu'il y ait 5000 interpellations d'aidants. Et c'est l'objectif qui est assigné, bien évidemment, au service de police. Mais, comme je viens de vous le dire, le texte est tellement large que ça va du trafiquant professionnel jusqu'aux associatifs. Donc voilà, comme on dit 5000, eh ben, il faut en faire 5000.
Alors voyons, recherche Google. Objectif d'interpellation des dents. Annexe budgétaire, loi de finances 2009. Alors, performance-public.gouv.fr. Objectif et indicateur de performance, ministère du budget. Objectif numéro 4, renforcer la mobilisation des services de police et des unités de gendarmerie dans la lutte contre l'immigration irrégulière. L'indicateur relatif aux aidants, au sens de l'article L622.1 du CESEDA, code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc, indicateur numéro 4.3, nombre d'interpellations d'aidants, réalisation 2007 4504, prévision 2008 4800, prévision 2009 5000, objectif 2011 5500.
Alors, je suis Sylvie Copiance de l'association Salam. Alors, Salam, on est tous bénévoles. Ça fait 7 ans qu'on a créé l'association. Après la fermeture de Sangat, au début on a démarré petit et maintenant on est à 300 adhérents et on est une trentaine de personnes tous les jours sur le terrain. Donc c'est apporter une aide humanitaire, apporter une aide en nourriture, en vêtements, les accompagner dans les soins de santé, et dans les demandes d'asile.
Vous habitez Calais ?
Oui, je suis calaisienne depuis 50 ans.
Comment vous avez décidé de vous impliquer, de commencer à les aider ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous disiez il faut faire quelque chose ?
Une après-midi où je partais travailler, et il y avait 7 CRS juste dans ma rue à côté de chez moi qui avaient mis 3 Afghans par terre, menottés. Et je trouvais que c'est bon, il y avait quelque chose qui n'allait pas en France. Au départ, c'était donner de la soupe sur les marges d'une église, quoi. Et puis peu à peu, j'ai donné un doigt, j'ai donné la main, j'ai donné le bras, et puis tout le reste a suivi, parce que même 7 ans après, je trouve que c'est toujours complètement injuste cette façon dont ils sont traités, parce qu'on ne se ferait pas supporter ça à un chien, les chiens sont mieux traités qu'eux. Et que la France, c'est pas l'idée que j'en ai, moi, de la France. Au fil des années, on a eu aussi la pression policière qui s'est accentuée, et pour eux, et pour nous, au niveau de l'association. Tout ce qu'on fait, c'est illégal, de toute façon. On n'a pas le droit de leur donner à manger, on n'a pas le droit de les aider, de les emmener à l'hôpital, dans sa voiture. Et tout est fait aussi du côté de la justice pour nous faire arrêter, que ce soit en cassant, si je puis dire, les bénévoles et en nous asphyxiant au niveau financier, en nous faisant verser des amendes, des grosses amendes. Mon Jean-Claude Lenoir a été condamné plusieurs fois, a été emmené plusieurs fois au tribunal de Boulogne-sur-Mer pour l'aide à personnes en situation irrégulière en ce qui concernait le premier procès. Des faits qui sont, au bout du compte, un délit de solidarité.
Il y a un monsieur là aussi qui attend pour la passe.
Ah bah c'est le monsieur avec le petit bout.
Oui, lui, il y a lui aussi qui doit aller à la passe.
Qu'est-ce que c'est la passe ?
C'est le point de santé en fait. C'est l'hôpital qui l'a mis en place. C'est gratuit en fait.
Et c'est loin d'ici ? 3-4 km peut-être ?
C'est vers le centre-ville entre guillemets. Et ils y vont à pied souvent. Donc c'est un peu embêtant.
Surtout pour ce monsieur qui a un problème au pied, c'est ça ?
Bah ouais.
He's my uncle's son, and he's broke his leg here.
Ça c'est votre oncle et il s'est cassé le pied.
Yeah, his foot here. One month before, talon. He's broke his foot here. Can't walk.
Donc là vous en emmenez 1, 2, 3, 4, 5.
Un sixième là-bas.
D'accord, dans votre petite camionnette en fait. Bonjour. Vous emmenez un migrant dans votre voiture. Et pourquoi vous l'emmenez dans votre voiture?
Parce qu'il n'y a plus de place dans le camion.
Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse comme ça?
Je veux dire, le monsieur là, qui on va amener maintenant, il a un pied cassé, il a un souci au pied. Faire 5 km à pied, voire 10, parce qu'il faut aussi revenir. Je voudrais bien voir qu'il ferait. Et je voudrais voir qu'il laisserait quelqu'un dans cet état aller à pied. Quoi. C'est illégal, mais il y a aussi côté humain.
Ouais, je m'appelle Agostine, j'ai 26 ans et je suis italienne.
Et vous êtes là depuis combien de temps?
Alors, à Calais, je suis depuis décembre.
Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec la police ou les autorités pour avoir pris des étrangers dans votre voiture?
Ouais, j'ai eu des soucis, si je me souviens bien, c'était le 3 février 2009.
Et donc voilà, il y a deux migrants qui m'ont arrêté parce qu'ils m'ont reconnu et m'ont demandé d'y aller à l'hôpital. Donc évidemment, oui. En plus, je veux dire, tu les connais, ça fait plusieurs semaines, voire des mois qu'on est avec. Voilà, le mec, il me reconnaît. Il m'arrête, j'y vais, quoi. Donc voilà, je les ai pris dans ma voiture. On passait... Ah bah tiens.
Ça, c'est la police.
Qui c'est, ça?
C'est la police.
Mais pourquoi ils passent, là, en fait?
Ouais, c'est que l'autre.
Prendre des informations, savoir s'il y a beaucoup de journalistes sur place ou pas, s'il y a beaucoup de bénévoles.
Donc voilà, les deux jeunes, ils m'ont arrêté pour me demander si je pouvais les amener à l'hôpital. Je les ai pris dans ma voiture. Et j'étais en train d'y faire demi-tour. Et la PAF, police aux frontières, était derrière moi avec la camionnette de ramassage banalisée. Donc voilà, ils m'ont demandé de descendre. Ils ont fait descendre les deux jeunes, ces deux Afghans. Ils les ont fouillés, ils les ont menottés. Moi, ils m'ont pris le portable, ils m'ont demandé d'y garer la voiture sous le côté et de les suivre sous la camionnette.
Mais vous avez dit qui vous étiez, pourquoi vous faisiez ça?
Bien sûr. Bah, je dis, je suis une bénévole de Salam. Ils m'ont demandé si j'avais une carte. Et j'ai dit, bah non, on n'a pas des cartes, on est des bénévoles. Voilà quoi, c'est. Et j'avais le Kawé Salam, le badge. Oui, mais vous savez, mademoiselle, il y a plein de gens qui profitent des associations. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Vous savez, c'est illégal de prendre des personnes et un séjour irrégulier dans votre voiture. Et j'ai dit, ouais, mais je sais aussi qu'il y a une loi qui dit non-assistance à personne en danger. Ouais, on va discuter de ça au poste de police. Et en fait, au bout de 3h30, ils m'ont fait sortir. Ils m'ont pas mis dans les cellules. J'étais juste dans le couloir où sont les bureaux.
Vous aviez déjà été mise en garde à vue?
J'ai jamais eu, mais jamais eu un seul souci avec la police ou quoi que ce soit.
Qu'est-ce que vous avez ressenti en fait à ce moment-là de vous retrouver comme ça au poste de police?
Bah, tout au début, j'étais assez tranquille parce que voilà, je faisais rien de mal. Après, c'est drôle parce qu'ils te mettent dans une situation, effectivement, ils essaient de te casser quand même, de te faire craquer. T'es toute seule, tu peux parler avec personne, t'as rien du tout, t'as ni à boire, ni à manger, rien. Je devais demander d'aller aux toilettes, t'es accompagnée, c'est une policière femme qui m'a accompagnée, mais je veux dire, je pense que c'est vraiment l'attente, c'est le plus lourd.
Est-ce que vous avez été poursuivie pour quelque chose?
Non. Voilà, ils m'ont dit que voilà, c'était bon. Moi, je pense qu'ils m'ont quand même arrêté pour plutôt, vu, voilà, elle est nouvelle, elle n'est pas d'ici. En plus, je ne suis pas française, je suis italienne. Et je pense qu'ils ont dit, bon, on va la décourager, quoi, tout de suite. On essaie de la casser tout de suite. Ils arrêtent les mauvaises personnes, quoi. J'étais arrêtée parce que j'étais considérée comme un passeur. Je suis bénévole d'une association qui aide les personnes en séjour irrégulier. Ils ont perdu 3 heures de leur journée du boulot, quoi. Qui aurait pu utiliser peut-être vraiment pour essayer d'attraper les vrais passeurs ou le gros réseau. C'est ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule.
Les filières d'immigration clandestine n'utilisent pas le taxi du coin. Hein. Les vrais gros dossiers d'immigration clandestine, c'est des dossiers qui démarrent. Je prends un exemple, hein. Il y a eu un gros dossier qui a été jugé il y a 2 ans. Ça part de Chine, ça passe par l'Allemagne pour arriver en France, pour repartir soit en Angleterre, soit en Amérique du Nord ou au Canada. Et avec des échanges d'argent, avec des personnes sur place à chaque fois qui sont de véritables relais, c'est extrêmement organisé, c'est pas le petit chauffeur de taxi comme ça. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si le fait de chiffrer 5000 aidants, ça empêche pas les services de police de travailler plus sur les filières. Parce que plus on demande un chiffre important, moins on se consacre à des dossiers où, dans le cadre d'une filière, on va interpeller 10 personnes, mais avec des mois et des mois d'enquête, de filatures, d'écoute téléphonique, etc., etc., pour interpeller que 10 personnes, alors que interpeller un chauffeur de taxi, puis un deuxième, et puis éventuellement un gars dans sa camionnette, on va faire le chiffre, mais on n'aura absolument pas arrêté une filière.
Microscopie. À suivre.